on a bouclé la boucle. Alors là, c'est assez marrant parce que, disons, c'est un peu aussi un private joke dans les professionnels de l'eau, etc. Il y a des sondages qui sont faits chaque année, on demande aux gens qui fait quoi, comment est produit l'eau, etc. Et les gens répondent généralement, l'eau vient de la station d'épuration. Alors ça fait rigoler tous les gens de Veolia, tous les gens des agences de l'eau, etc. Mais sauf que là, ça y est, on y est arrivé, on a bouclé la boucle. Et en fait, dans au moins ces trois premiers cas, ça va se développer de plus en plus, donc on va jusqu'à réutiliser les eaux usées. Donc c'est encore une fois un peu la fuite en avant que j'évoquais tout à l'heure. Et en France même, alors il ne s'agit pas encore d'utilisation pour la consommation humaine, mais il y a 60 sites en France, dont le Mont-Saint-Michel, où on réutilise déjà les eaux usées, notamment pour des usages agricoles, pour l'irrigation. Alors ça va poser des problèmes, parce que si vous voulez, le consentement de l'usager par rapport à ça, donc ils y vont avec beaucoup de précautions, il ne faut pas beaucoup de publicité là-dessus, mais ça y est, le cycle est un peu engagé. Donc le reuse, alors il y a une autre notion, non mais là je passe un peu là-dessus, parce que sinon je vais être trop long. Alors par rapport à ça, en termes donc de un peu de prospective de tous ces enjeux, il y a un débat qui s'est développé depuis maintenant une quinzaine d'années, un débat alors très politique hein, dans tous les pays, partout. Qu'est-ce qu'il faut déployer, mettre en œuvre, susciter comme initiative pour répondre à des problèmes de cette ampleur? Et là où la question devient extrêmement politique, c'est sur le constat qui est fait, et ça personne ne peut le dénier, y compris les plus fervents partisans du service public, de la gestion publique, on va y revenir, les États globalement ont failli. Aujourd'hui, le Pakistan consacre 59 fois davantage d'argent à son budget d'armement qu'il n'en consacre au budget de l'eau pour sa population. Bon, et ça, c'est un constat qu'on peut faire à peu près dans tous les pays du monde, quels que soient les gouvernements, etc. Il n'y a pas une bonne allocation de ressources. Donc, sur cette base-là, c'est vrai que depuis maintenant une quinzaine d'années, là, et les entreprises françaises jouent un rôle tout à fait majeur, éminent là-dedans, il y a tout un débat, ça va au-delà des politiques de l'eau, hein, mais débat qui a commencé dans les années 80, consensus de Washington, FMI, Banque mondiale, etc. Les problèmes que rencontrent les pays pauvres ne peuvent pas être résolus par la puissance publique, il faut injecter du privé, etc. etc. Donc, et là, par rapport à l'accès à l'eau, l'assainissement, il y a un débat politique très très violent. Sur le fait de savoir si la réponse c'est une mobilisation accrue de la puissance publique ou c'est de faire appel à des opérateurs privés. Alors là, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs phases, hein, mais dès le début des années 80, il y a eu un énorme lobbying des opérateurs privés du secteur, dont les entreprises françaises. Les grandes institutions financières internationales ont été évangélisées. Et puis là, pour l'anecdote, par exemple, c'était l'ancien président de Suez Jeunesse des Eaux, M. Jérôme Monod, qui était un des fondateurs du RPR en 1974 et qui était à l'Élysée avec M. Chirac jusqu'à cet été, qui a été très, très, disons, très, très actif, qui est devenu conseiller du président de la Banque mondiale. Enfin bon, ça, c'est tout ce que dénonce Attaque par rapport à ça est vrai. C'est pas pour vous faire une fleur, mais enfin bon, toute cette logique-là, c'est effectivement déployé. Donc on a eu une première phase d'expansion à l'international de ces entreprises, et là la France a une responsabilité toute particulière, parce que la Générale des Eaux est la Lyonnaise des Eaux. La Générale des Eaux a été créée en 1853 par décret napoléonien. Suez, 20 ans plus tard. Donc sont devenues des véritables entreprises transnationales, sont en situation de monopole absolu en France, on pourra en parler parce que c'est tout un autre aspect du problème, et sont désormais, à l'échelle internationale, détiennent 40% du marché qui a été libéralisé. Je ne vais pas dire privatisé, parce que là, il y a une petite notion, je me chamaille toujours d'ailleurs avec mes camarades d'Attaque là-dessus. C'est important, parce qu'il y a une libéralisation du secteur de l'eau et de l'assainissement, comme d'un tas d'autres services essentiels, comme la santé, comme l'éducation, etc. Une libéralisation, pas une privatisation. Quand on dit privatisation, ça veut dire qu'on privatise des actifs. Aujourd'hui, dans le monde, il n'y a que deux pays qui ont totalement privatisé les actifs. C'est assez intéressant, les replans idéologiques, ce sont le Chili et la Grande-Bretagne sous Mme Thatcher. Donc, les actifs, les installations, les structures, les réseaux, les unités de relèvement, les usines, etc., ont été privatisés, ont été achetés par des opérateurs privés. Ce sont les deux seuls cas dans le monde. Partout ailleurs dans le monde, et ce qui fait la singularité de notre fameux modèle français, les infrastructures et la responsabilité de leur gestion demeurent du domaine public. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si en France, Veolia, Suez et Essor, la troisième, détiennent 80% du marché de la distribution d'eau et 55% du marché, ça reste un service public, parce que ça s'inscrit dans ce qu'on appelle la délégation de service public. C'est la collectivité qui en conserve la responsabilité et qui confie, sous forme de mandat, de prestation de service, ça s'appelle une DSP, une délégation de service public, une concession ou un affermage, qui confie la gestion de ces installations pour une durée de temps à ces entreprises. Mais ça demeure propriété et responsabilité publique. Et c'est, je crois, assez important, parce que même si ça paraît comme ça, une petite ritournelle sémantique, mais c'est assez important. C'est pas une privatisation. Et d'ailleurs, ils n'en veulent surtout pas. Parce que ce qui a fait la fortune de ces entreprises dans ce modèle-là, c'est que les investissements sont toujours consentis, assurés, par la puissance publique et in fine par l'usager, là, à travers notre modèle agence de l'eau, redevance, facture, etc., qui est assez complexe, mais on pourra y revenir si vous le souhaitez. Et elles ne veulent surtout pas d'une privatisation pure et dure, parce que ce qui est génial dans ce système de délégation de services publics, où c'est l'autorité publique qui concerne la responsabilité, c'est que si vous, usager, avez des récriminations à faire, vous allez vous tourner vers le maire, vers la collectivité, pas vers le prestataire de service qui est Veolia. Donc ça fait une espèce d'écran. Tandis que si c'est totalement privatisé, si ça leur appartient totalement, les récriminations, c'est à eux que vous les faites. Et il y a d'ailleurs un paradoxe, parce que ils défendent toujours donc la libéralisation, et la libéralisation s'accompagne historiquement dans tous les secteurs qui ont été touchés par la mise en place d'autorités de régulation. Ça, c'est l'école de la régulation qui a vu le jour aux États-Unis, les chemins de fer, etc. Et là, juste, bon, on va pas faire des grands débats philosophiques là-dessus, mais il y a quand même un paradoxe par rapport à la situation qu'on vit en France. Bon, ces entreprises, il y a de plus en plus de citoyens qui dénoncent les dérives, qui les mettent en cause, l'UFC que choisit récemment, ça fait débat dans tous les municipales, etc. Il y a quand même un paradoxe. D'ailleurs, je fais assez fréquemment des débats avec eux, et je leur repose toujours cet argument-là, ils sont toujours un peu mal à l'aise, bon, ils sont pas là ce soir, enfin j'en sais rien peut-être, mais c'est un argument qui me semble assez fort. Comment se fait-il en France même, alors que depuis 20 ans, on a libéralisé des pans entiers de ce qui était d'anciens monopoles publics, enfin, et ça s'accélère sans arrêt, on le voit bien. À chaque fois qu'un de ces anciens monopoles publics a été libéralisé, ça s'est accompagné de la création d'une autorité de régulation. Donc, pour l'audiovisuel, vous avez le CSA, pour les télécommunications, vous avez l'ART, pour l'énergie, vous en avez encore une autre, etc. Là, l'eau, l'assainissement, il n'y a pas. Il n'y a pas de régulation publique du secteur. Donc, ça pose quand même la question du contrôle de ces modalités d'exercice d'une mission publique, du contrôle que peuvent exercer les usagers qui financent quand même largement le système, et ça explique quand même largement pour partie toutes les polémiques, à mon sens, vous l'aurez compris, tout à fait justifiées sur le rôle que jouent ces entreprises, leur fonctionnement, enfin les dérives financières, etc., etc. Donc, à l'échelle mondiale, c'est ce modèle-là qui a été porté notamment par les entreprises françaises, et la question est désormais posée, fait débat partout dans le monde, parce qu'en fait, il y a eu plusieurs étapes. Ça a commencé dans les années 80, alors là aussi, je me chamaille aussi souvent avec mes camarades alter là-dessus, bien avoir à l'esprit que, bon d'accord, ce sont pas des entreprises très recommandables, qui ont des pratiques assez répréhensibles, mais quand même, ce ne sont pas elles qui arrivent en jet avec des valises de billets, voire des dictateurs d'opérettes qui les corrompent, etc. Non, c'est plus gris que ça. Ce sont très souvent les collectivités de ces pays qui n'ont pas fait ce qu'il fallait faire, qui ont perdu le contrôle, qui sont face au développement de villes de 10 millions, de 15 millions d'habitants, qui font appel à ces entreprises parce qu'elles ont des compétences. Ces compétences sont réelles. Ça, moi, je les critique, mais force est de constater que les compétences purement techniques, ce qui pose d'ailleurs un problème, j'y reviendrai, sont réelles. Donc, on fait appel à ces entreprises. Ils signent des contrats. Les investissements, là quand même, elles trichent toujours, disons, dans l'argumentaire un peu de propagande, ce sont jamais elles qui investissent, qui a fait leur fortune, c'est la captation d'une rente d'argent public, puisque dans notre modèle, c'est la puissance publique qui est responsable, qui investit, enfin, avec l'argent des usagers ou à l'impôt, ça dépend des périodes. Et donc, première phase, elles arrivent, elles signent des contrats de très longue durée, et là, il y a une espèce de scénario infernal qui se met en place, et c'est ce qui s'est passé dans toute l'Amérique du Sud. Ils arrivent dans des pays où vous avez des réels problèmes d'accès à l'eau. Donc, ils bénéficient d'investissements, ils signent des contrats, la situation est généralement tout à fait dégradée. Ça s'est passé à Buenos Aires depuis 82 pour Suez, qui a fini par quitter Buenos Aires l'an dernier, donc ils ont été présents quand même très longtemps. Ils commencent à faire un peu le boulot, même à faire pas mal, parce qu'il y a une vraie polémique sur Suez en Argentine, ils se défendent, ils mènent des campagnes de presse, vraiment. Mais quand on regarde effectivement d'un peu près, c'est vrai qu'ils ont relié 1,5 million de personnes dans l'agglomération de Buenos Aires, mais à partir de là, généralement, ça se dégrade très vite, parce que c'est vraiment une espèce de piège infernal. Ils partent d'un principe, d'un modèle, de modalités d'exercice, donc qui ont été développés dans nos pays développés, où les gens ont un certain niveau de revenus. Sauf que là, ils s'adressent à des populations qui sont pauvres, qui n'ont pas les moyens de payer. Parce que bien évidemment, eux, dans leur logique privée, ils interviennent pour le compte de la puissance publique, mais le service doit être rémunéré. Sauf que ça marche pas, parce que les populations n'ont pas les moyens de payer. Et en plus, ils n'ont pas la culture du paiement. Auparavant, ils trichèrent, accordement sauvage, etc., etc. Et à partir de ce moment-là, il commence à y avoir des mouvements populaires, des revendications, les gens ne veulent pas payer, ils disent que l'entreprise augmente ses prix, ce qui est vrai. Et là, généralement, il y a un basculement de l'autorité publique, du gouvernement, de la collectivité, etc., qui fait face à l'affront de sa population et qui se retourne contre les méchants capitalistes compradors, qui deviennent, alors que hier on les a fait venir, qui deviennent les grands méchants, machin, dada. Et on a à peu près ce scénario-là à chaque fois. Donc, moi, vous aurez compris que je ne suis pas férocement partisan de l'intervention privée dans ce secteur, parce que là, il y a un grand nombre d'arguments philosophiques, politiques, sociaux, environnementaux, qui plaident bien davantage dans un regain d'action de la puissance publique. Mais je fais juste cette petite insiste que dans la manière dont ces questions-là, disons, se sont inscrites dans le débat public ces dernières années, il faut y regarder quand même d'un peu plus près. Parce que et ça montre bien en même temps la complexité du problème. Ça veut dire qu'il n'y a pas de réponse toute faite. Et pour ce qui est de la technicité de ces entreprises, ça pose aussi un vrai problème, parce que j'anticipe peut-être un peu sur la suite et je ne vais pas durer beaucoup plus longtemps. Ça pose un vrai problème parce que dans les critiques qui sont formulées vis-à-vis de ces entreprises, bon d'accord, elles réalisent des bénéfices sur ce qui est un bien commun, c'est pas un service marchandisable, etc. Tout ça, d'accord. Mais désormais, on est confronté à tout autre chose, c'est qu'en fait, ces entreprises, avec le monopole qu'elles ont acquis, ont totalement, exercent totalement leur emprise sur tout le domaine de la recherche-développement dans le domaine de l'eau. Aujourd'hui, ces deux entreprises ont deux laboratoires dans la région parisienne, qui sont les laboratoires mondiaux de référence du secteur. En gros, il y a vraiment, à côté de ça, il n'y a pas de ressources dans le domaine public. Donc, la recherche-développement, les brevets, la normalisation, l'influence qu'elles exercent sur l'élaboration des politiques publiques à l'échelle européenne et à l'échelle mondiale. C'est bien plutôt en ces termes-là qu'il me semble qu'elle pose un véritable problème. Parce que face à ça, par étapes successives, il y a donc un abandon de la capacité d'intervention de la puissance publique. Et j'anticipe peut-être un peu sur peut-être le débat qu'on aura tout à l'heure, sur public-privé, etc. Depuis quelques années, il y a un regain du retour en gestion directe, il y a une dénonciation des profits abusifs, il y a des questions philosophiques qui sont portées, est-ce qu'un service public aussi essentiel est susceptible d'être marchandisé ou non, mais il y a aussi tous ces éléments-là qui me paraissent beaucoup plus importants, parce que ça revient à dire que même si on enregistre depuis quelques années, ça va très probablement s'accentuer dans les années qui viennent, un retour en gestion directe, c'est-à-dire que des collectivités au terme d'un contrat, ne renouent pas avec ces entreprises et reprennent la gestion directe de ces services, absolument essentiels pour la population, ça pose des vrais problèmes. Parce que comment faites-vous quand pendant 20 ans ou 30 ans, vous avez délégué à une entreprise privée qui a développé une technicité absolument invraisemblable, qui maîtrise la recherche-développement, les brevets, la normalisation, qui exerce une véritable emprise sur le politique, sur tous les services de l'État, désormais à l'échelle européenne, etc. Comment faites-vous, vous, collectivités, publiques, pour vous réapproprier des savoirs, des savoir-faire, des technologies que vous avez perdues depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et là, force est de constater, moi c'est un peu quand je débat avec des politiques, l'interpellation que je leur relaie à chaque fois, vous avez la responsabilité de reconstituer une ingénierie publique digne de ce nom. Et si malheureusement de mon point de vue, mais bon, voilà. Si aujourd'hui, faut pas rêver, il y aura pas d'eau de France demain, c'est pas forcément souhaitable. Et de toute façon, ça, on peut pas faire le comparatif avec EDF, GDF, parce que l'eau est une ressource locale. Donc, l'électricité, vous la produisez à la Rance, dans les Alpes, dans une centrale nucléaire. Une fois qu'elle est dans les fils, tac, 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 vous pouvez faire un système de péréquation tarifaire. Avec l'eau, c'est pas possible. Sinon, vous construiriez une usine à gaz. Et les coûts de recouvrement de cette péréquation seraient tels que vous doubleriez le prix de l'eau simplement pour assurer le montant du recouvrement de la péréquation. Donc ça ne peut pas fonctionner. En revanche, il y a une véritable nécessité de reconstruction d'une ingénierie publique dans le domaine de l'eau et de l'assainissement, de reconstruction, même de construction, de régulation forte par l'autorité publique. Et c'est ce qui fait cruellement défaut aujourd'hui. Parce que comment en même temps reprocher, parce que si vous voulez, j'ai vu l'exemple plusieurs fois. On prend une jeune équipe municipale, bon voilà, il est municipal bientôt, hein, donc c'est l'actualité, j'en parle et je m'arrête après. On prend une jeune équipe qui arrive aux affaires, qui gagne, qui est animée de bonnes intentions, qui est honnête, qui est intègre, qui est de gauche par exemple, bon, non, enfin de droite aussi, hein, ça arrive, et qui hérite d'un contrat léonin, scandaleux, donc les entreprises ont fait des bénéfices. Sauf que si ça fait 30 ans, il n'y a plus un seul technicien dans la collectivité. Vous allez vous adresser à qui? les services de l'État, les agences de l'eau, enfin toutes les institutions, et Dieu sait s'il y en a qui interviennent dans ce secteur-là, sont totalement sous l'emprise de ces entreprises. Ce sont ces entreprises qui font la loi, qui font les lois, qui font les réglementations, qui font les normes, qui font les brevets. Bon. Donc, nécessité de reconstruction d'une intervention publique forte dans le secteur de l'eau. Et c'est ce qui fait cruellement défaut aujourd'hui. Je me suis un peu éloigné des enjeux mondiaux, mais en même temps, c'est aussi la question qui se pose aujourd'hui à l'échelle internationale, et ça commence d'ailleurs à se concrétiser. On a longtemps parlé de partenariat public-privé à l'initiative de ces entreprises. Désormais, il y a une nouvelle conception de partenariat public-public, ce qui veut dire que si on veut réellement apporter une réponse aux pays pauvres, aux pays du Sud qui ont un besoin absolument vital de pouvoir accéder à l'eau et de pouvoir accéder à des services d'assainissement corrects, ça ne peut pas se résumer à une marchandisation, à une intervention du secteur privé. Et il y a aujourd'hui, des réseaux qui se constituent, des actions qui se mettent en place afin de donner une nouvelle vigueur à ce type d'intervention publique. Voilà, j'étais très long, je vous remercie, mais je n'ai abordé qu'une partie des sujets, mais je suis tout à fait disposé à répondre à toutes les questions que vous souhaitez poser. Merci.